tous dans votre grande table des idées aujourd'hui. Le cinéma dit-il toujours la vérité? La fiction fabrique à fake news. Pour clore notre forum Les Idées Claires, samedi dernier à la Sorbonne, nous avions invité le cinéaste Éric Rochant, concepteur du Bureau des Légendes, dont la 4e saison sera bientôt diffusée sur Canal. Retransmission aujourd'hui de ce grand entretien passionnant à partir de 12h55. Mais d'abord, à bout de souffle, asphyxié par son amour impossible, avec un garçon de bonne famille, Armand Duval, Marie-Sophie Ferdan et Marguerite Gauthier, la courtisane d'une beauté à couper le souffle de la Dame aux Camélias sur la scène du théâtre des Gémeaux à Sceaux jusqu'au 21 octobre dans une mise en scène d'Arthur Nosiciel, le nouveau directeur du Théâtre National de Bretagne. Ils sont tous deux nos invités jusqu'à 12h30, à réécouter plus tard si vous le souhaitez sur le fil de votre podcast La Grande Table.
La Grande Table. Olivia Jesbert.
Créé au TNB de Rennes avec une longue tournée à venir, de la Comédie de Valence à celle de Reims, du Vidi de Lausanne à la Criée de Marseille, La Dame aux Camélias d'Arthur Nosiciel, adapté d'Alexandre Dumas fils, un texte de 1848. Lui-même, il s'était inspiré par la figure de Marie Duplessis, joué une première fois au théâtre en 1852, un texte un peu édulcoré, censuré, adapté au bon goût de l'époque. Vous me suivez, Marie-Sophie Ferdan, bonjour.
Bonjour.
Arthur Nosiciel, bonjour.
Bonjour.
Un classique du genre, cette Dame aux Camélias. Tout tombe dans ce bureau. C'est presque comme un décor qui s'effondre. On va tenter de tenir jusqu'à 12h30. Arthur Nosiciel, quel sens vous avez voulu donner à cette pièce en la réadaptant à votre tour avec Valérie Emrejean? Est-ce qu'il y avait une envie de retrouver une dimension peut-être plus corrosive du texte original de Dumas fils qui avait dû, lui, largement couper
en fait,
ses idées de départ?
Il y a deux textes, c'est-à-dire qu'on est parti du roman qui a été écrit en 1848, et puis un petit peu plus tard, il y a eu la pièce. Et c'est les différences entre la pièce et le roman qui m'ont intéressé. Alors effectivement, il y a dans la pièce, même si elle a été subversive à l'époque, puisqu'on d'habitude au théâtre, on montrait, on va dire, de manière naturaliste ou vraie, plutôt des princesses et des déesses, pas forcément des putes, toutes demi-mondelles qu'elles soient. Donc il y avait quand même l'intrusion, l'arrivée de ce personnage et de ce qu'elle est profondément sur les scènes du théâtre de boulevard, qui était le théâtre bourgeois de l'époque. Et puis, il y avait cette dimension-là dans la pièce. Mais malgré tout, la pièce tend à embourgeoiser, on va dire, le personnage en faisant rêver Marguerite Gauthier d'une vie familiale, un peu conjugale, etc., qui la rachèterait. Or, le roman a quelque chose de gothique, comme on le dit. La religion du 19e, c'est le deuil. Il y a quelque chose de très mélancolique avec la volonté comme ça de relier le passé et le présent et de travailler à partir des fantômes. C'est le siècle du spiritisme, etc. Et je dis ça parce que la différence entre le roman et la pièce, qui est fondamentale, c'est que dans le roman, où il s'inspire de sa vie, il raconte comment finalement il a abandonné cette femme qui est morte seule, abandonnée, ruinée. Alors que dans la pièce, il arrive in extremis et elle meurt dans ses bras. Et là, il y a quelque chose qui me touchait, c'est comment aussi la fiction permet de réécrire l'histoire dans tous les sens du terme et comment, grâce à la poésie finalement, il va inventer une tombe pour Marguerite Gauthier et puis surtout, il va lui permettre de mourir consolée. Et c'est dans ce travail de réparation qui est entre le roman et la pièce que je trouvais qu'il y avait un écart intéressant.
Et vous le rachetez un petit peu de ses fautes, du coup, en réintégrant cette fin-là, parce que lui aussi souffre quand même un peu sous le poids de sa culpabilité, ça commence à le peser, il l'a abandonné, somme toute, hein, Marguerite.
Oui, mais il vivra toujours avec ça, en fait. Et il n'y a que le plateau ou l'écriture qui lui permet de la retrouver. Enfin, c'est ça que j'aime bien. C'est aussi comment l'art est toujours un lieu de réparation pour moi, le théâtre en particulier. Donc, je sais pas si on le rachète, mais en tout cas, on leur donne à l'un et à l'autre de se retrouver au-delà de l'espace et du temps.
Marie-Sophie Ferdan, pour reprendre les mots d'Arthur Nosiciel, qu'est-ce qu'elle est pour vous profondément, Marguerite Duval?
Une femme qui se sacrifie et puis qui a conscience qu'elle ne vaut pas grand-chose dans le monde dans lequel elle vit. Parce que ce qui me surprend toujours, même chaque soir en le rejoignant, c'est de voir à quel point elle va vite quand le père arrive et lui dit « Vous ne pouvez plus vivre cette vie-là, mon fils n'aura pas d'avenir si vous restez avec lui parce qu'on ne peut pas construire une carrière, il y a le mot carrière, dans une société bourgeoise avec à ses côtés une prostituée. » Et ça va très vite en fait, en 3 minutes, le sort en est joué, elle se lève et elle dit « D'accord ». D'accord, je le savais, j'attendais qu'on me le dise, mais je le savais, je renonce, je me sacrifie pour lui, et c'est cette, Parce que je pense que ce n'est pas la parole du père qui lui fait comprendre qu'il faut partir, c'est qu'elle le savait, que de toute façon ce rêve-là n'était pas grand-chose dans son parcours et qu'elle était en sursis. De toute façon, elle va mourir dans quelques mois. Donc c'est comme une expérience qu'elle tente de vivre cet amour, mais en sachant que ça ne va pas durer.
Un rêve déçu, une illusion déchue aussi, extrait de La Dame aux Camélias.
Je rêvais donc, par moments, sans oser le dire à personne, de rencontrer un homme assez élevé pour ne me demander compte de rien et pour être l'amant de mes impressions plus que de mon corps. Cet homme, je l'avais rencontré dans le Duc. Mais le Duc est vieux. Je croyais m'habituer à la vie qu'il me proposait, mais que veux-tu ? Je m'ennuie à périr. Et pour faire tant que d'être consumé, mieux vaut se jeter dans un incendie que d'être consumé par du charbon. Alors, je t'ai rencontré, toi, jeune, ardent, heureux, et j'ai essayé de faire de toi l'homme que j'avais appelé du fond de ma bruyante solitude. En une minute, j'ai bâti tout un avenir sur ton amour. Je me suis donné à toi plus vite qu'à aucun autre. Pourquoi ? Parce que me voyant tousser et cracher du sang, tu m'as pris la main.
Marie-Sophie Ferdan, qu'est-ce qu'elle a encore à dire, cette dame, aux femmes d'aujourd'hui ?
Oh, je ne sais pas, de manière aussi générale, je vois juste qu'elle synthétise et puis qu'elle cristallise une façon tragique d'être au monde, de savoir oui, que sa vie ne vaut pas grand-chose. Elle le dit, vous savez, ça me fait toujours penser au slogan « parce que je le vaux bien », qui est la chose qu'on essaye de nous faire croire aujourd'hui, qu'on vaut bien un shampoing ou un nouveau rouge à lèvres. Et elle dit « ne vous exagérez pas ce que je vaux, car je ne vaux pas grand-chose ». Et c'est toujours cette question de la valeur, combien vaut une femme, combien vaut, mais même techniquement, combien on la paye, combien... Et sans être forcément prostituée dans son travail, dans son rapport au monde, combien vaut la vie d'une femme ? Alors bien sûr, en France, nous sommes dans un pays démocratique, rassurant, où beaucoup de choses ont été faites par les féministes, par l'histoire des hommes aussi, qui sont venus jusqu'à donner une certaine place aux femmes. Mais quand même, dans l'histoire du monde, c'est pas exactement encore acquis que la vie d'une femme vaut strictement la même chose que la vie d'un homme, et qu'elle devrait être libre de choisir sa vie, ou en tout cas d'essayer de la vivre.
C'est une héroïne dramatique, Arthur Noziciel, cette dame aux Camélias. C'est une femme libre qui ne parvient pas pour autant à s'émanciper des conventions sociales. Elle est dépendante aussi matériellement, financièrement des hommes qui la courtisent et qui la font vivre. Et quand elle veut couper ce lien, elle signe sa perte.
Mais c'était le cas de beaucoup de femmes de l'époque. Là, ça se passe dans un monde ouaté, hein, enfin qui est un peu plus appréhensible. Après, on peut l'appréhender mieux parce qu'il est dans les canapés, dans les dorures et le velours. Mais dans le fond, il y avait des échelons, hein, dans la prostitution. Mais on parle d'une époque où, en dehors du mariage, finalement, il y avait très très peu d'options pour les femmes. Je pense que de l'ouvrière à la grande actrice, toutes à un moment ou à un autre, enfin toutes beaucoup passaient par la prostitution parce que justement l'inégalité des salaires était telle que et l'inégalité des traitements était telle qu'elle n'avait pas le choix. Donc le pour moi il y a quelque chose de tragique, en fait, plus que dramatique. Il y a vraiment un élément tragique dans cette histoire, d'une part de cette injustice profonde sur laquelle nous en tant qu'hommes on va se construire, et puis est tragique par rapport à l'histoire d'amour qui se joue entre eux, qui nous touche, je crois, tous, parce que c'est deux illusions qui se rencontrent: un homme qui est amoureux de l'idée de l'amour, qui pense qu'il aime alors qu'en fait il veut posséder, et puis de l'autre côté une femme qui peut-être a envie de tenter de vivre cette expérience de l'amour qu'elle n'a pas encore vécu jusque-là. Et ça pourrait marcher, mais à l'épreuve du réel, à l'épreuve des cadres sociaux, tout ça explose, en fait. Et en ça, c'est de la tragédie aussi, parce que dès le début aussi, on sait que c'est fini. Il y a quelque chose de racinien, en fait, dans cette histoire.
Oui, c'est vrai que c'est une très belle pièce aussi sur la jalousie, sur cette possible appartenance des corps et des cœurs entre un homme et une femme, ou entre tout couple amoureux aujourd'hui. Vous l'évoquiez à l'instant, cette idée que le corps est une marchandise. C'est le cas dans cette pièce, dans le texte déjà d'Alexandre Dumas-Fils, mais ça l'est encore aujourd'hui. Mais vous montrez bien, Arthur Noziciel, aussi la beauté des peaux qui se touchent, la grâce des corps nus qui s'embrassent au ralenti. Vous ne montrez pas le corps non plus de la courtisane, paysanne meurtrie, amaigrie par la maladie, par la tuberculose qui est en train de la détruire, l'auto-détruire. Vous aviez envie de quoi à travers cela, de préserver aussi un peu la part romantique de cette pièce ?
La présence de la sexualité et de l'acte sexuel, je trouve qu'il est dur à représenter sur un plateau. En tout cas, c'est difficile de demander ça à des acteurs. Enfin, je l'ai raconté autrement. Avec cette sculpture, ce meuble, ce fantôme qui est là, enfin qui dit voilà où on est en fait. Et mais en même temps, ça me permettait justement de parler d'autre chose. Et sur il y a une présence des peaux parce qu'il fallait qu'il y ait une forme de nudité qui soit pas du nu, qui soit pas de l'académisme du nu, mais une nudité qui est celle de l'intime, qui est celle de gens entre eux, tels que on pourrait les voir si on devait pas être là. Et il y a une façon d'être avec son corps qui est entre ces moments de prostitution, donc comment le corps peut être épuisé, comment il peut être en attente, comment il peut avoir survécu à ces soubresauts-là, en fait. C'est plus quelque chose de cette nature. Et puis il fallait rendre compte d'une physicalité, je crois, dans cette histoire, pour la détacher peut-être de la gangue romantique dans laquelle elle est prisonnière depuis longtemps, parce qu'on a plutôt eu tendance à faire de Marguerite Gauthier une grande amoureuse qu'une révoltée ou qu'une prostituée. Donc ce travail sur le corps, il va chercher quelque chose de l'ordre de l'épuisement, du ralenti, de l'attente, on va dire.
Et ça, Marie-Sophie Ferdinand pourrait peut-être nous en parler. C'est la première fois que vous jouez à ce point-là avec votre corps pendant 3 heures. On sent même pour le comédien, pour l'acteur, une mise à l'épreuve des corps quand même, hein, sur scène.
Oui, c'est vrai que c'est 3 heures, et puis 3 heures d'une intensité vraiment particulière, parce qu'on est toujours là, les acteurs ne quittent pas le plateau, et puis qu'il y a cet épuisement dans la rencontre. On a travaillé avec un chorégraphe qui s'appelle Damien Jallet, qui nous a demandé, et ça m'a marqué dans le travail des étreintes, on a travaillé pendant un mois à comment s'enlacer, comment se déprendre de l'autre, comment garder dans son corps la trace de l'amant ou de la mort. Et il disait, je veux voir vos corps jamais confortables, jamais installés, mais essayer de retrouver jusqu'à l'épuisement. Ce qui m'intéresse, c'est quand vous êtes à bout de souffle, à bout de... Et évidemment, quand on est acteur, on pense, bon, alors j'en ai pour 3 heures,
il faut que je gère, je m'économise.
Là, je vais réfléchir, tiens, là j'ai un canapé, où je vais pouvoir me poser pendant 5 minutes. Mais là, on ne peut pas, parce que c'est écrit comme ça, justement, pour être toujours dans une tension qui raconte, je crois, autant que dans la parole, le manque de l'autre et puis la mort qui arrive, puisque c'est quand même aussi beaucoup ça, c'est la mort qui travaille en elle et qui la creuse et qui l'empêche d'être juste bien portante et satisfaite de sa vie.
On va parler de l'importance du texte encore, Arthur Nosiciel, mais là on voit aussi sur votre travail de metteur en scène l'influence de la danse. Vous aviez participé à la création de Play avec le chorégraphe Sidi Larbi-Cherkaoui, c'était en 2011. Aujourd'hui, introduire, mélanger, à la fois parce que la pièce est très littéraire dans l'utilisation de la voix off, comme vous le faites sur scène, mais aussi extrêmement corporelle, en fait, très physique. Il y a cette envie de mélanger les disciplines pour vous sur scène, ouais. Aujourd'hui, c'est dans ce dialogue que ça fonctionne.
Je l'ai toujours fait, en fait, et je pense que les gens le voient plus maintenant, que c'est plus rentré dans les mœurs, j'ai envie de dire, enfin, que c'est plus rentré dans le regard maintenant des gens qui commentent ou qui parlent du théâtre. Et peut-être quand j'ai commencé, il y avait déjà tout ça en réalité, mais on mettait moins le théâtre parfois dans le champ de l'art. Moi, j'ai l'impression que je dis des fois que ce décor est de l'ordre de l'installation. Ce que font les acteurs, pour moi, c'est de l'ordre de la performance. J'ai des amis cinéastes qui me disent que mes spectacles ont l'air d'être un travelling de 3 heures. Et mes influences, elles sont liées aux arts plastiques, au cinéma, à la danse. J'ai toujours eu envie de m'inspirer de ça. Alors peut-être que ça, les gens le voient davantage. Et puis, mais j'ai toujours fait, j'adore travailler avec Damien Jallet sur une physicalité de l'écriture, c'est-à-dire il y a quelque chose que l'acteur prend en charge avec le texte, mais le corps doit toujours être dans la conscience de comment ce texte le traverse et l'habite, comment le corps est une mémoire aussi de quelque chose. Et donc, moi depuis quelques années, j'aime quasiment chorégraphier tout ce qui va être du mouvement et du déplacement dans mes spectacles, et j'aime beaucoup travailler avec Damien pour ça. Je l'ai fait aussi sur Splendid de Genet, que je vais reprendre là en novembre à Rennes, et c'est comment chaque geste, chaque regard naît aussi du sens, pas seulement du sens qui est dit, mais du sens qui est traversé ou par lesquels l'acteur se laisse traverser, et on crée une continuité du texte comme ça, de la langue, mais aussi on crée une continuité physique, hein, une écriture physique.
Alors le dit, le texte, le sens dit, existe aussi à travers cette voix off qu'on retrouve entre des scènes jouées, extraits.
Il retourna prendre sa place à l'orchestre en jetant un coup d'œil rapide dans la salle pour voir dans quelle loge elle était. Il la vit échanger des regards avec la personne occupant la loge en face de la sienne. Il porta les yeux sur cette loge et reconnut dedans une femme avec qui il était assez familier. C'était une ancienne femme entretenue qui avait essayé d'entrer au théâtre, qui n'y avait pas réussi, et qui, comptant sur ses relations avec les élégantes de Paris, s'était mise dans le commerce et avait pris un magasin de mode. Prudence Duvernoy.
Qui regardez-vous ainsi ?
Marguerite Gauthier.
Vous la connaissez ?
Oui, elle est ma voisine.
Vous demeurez donc rue d'Antin ?
Numéro 7. La fenêtre de son cabinet de toilette donne sur la fenêtre du mien.
On dit que c'est une charmante fille.
Vous ne la connaissez pas ?
Non. Mais je voudrais bien la connaître.
Voulez-vous que je lui dise de venir dans notre loge ?
Non. J'aime mieux que vous me présentiez à elle.
Chez elle ?
Oui.
C'est plus difficile.
Pourquoi ?
Parce qu'elle est protégée par un vieux duc très jaloux.
Protégée. Et charmant.
Oui, protégée. Le pauvre homme serait bien embarrassé d'être son amant.
Voilà le texte qui vit en plusieurs dimensions sur la scène du Théâtre des Gémeaux, Arthur Nosiciel, Isabelle Huppert au cinéma, Judith Chemla entre théâtre et opéra avec La Traviata ou encore Jeanne Balibar dans La Dame aux Camélias sur une mise en scène de Franck Castorf. Je vous propose juste d'écouter, après on reparle de l'importance du texte, ces mots sur ce texte de Dumas. Elle disait à la grande table il y a 5 ans, 5 sur 10 sur ce texte de Dumas, texte moyen.
Le texte d'Alexandre Dumas n'est pas un très grand texte. C'est pas Flaubert, c'est pas Stendhal, c'est pas Balzac, c'est pas Genet, c'est pas Artaud, c'est pas Beckett. C'est un texte moyen, mais qui est très intéressant parce que la littérature moyenne est très intéressante. Parce que dans ce texte moyen, il y a des moments où la langue est très belle, parce que c'est aussi un état historique de cette langue du 19e siècle. Et puis, il y a aussi du symptôme, c'est-à-dire qu'on peut voir La Dame aux Camélias comme un texte pas tellement passionnant d'un point de vue littéraire, hein, politiquement assez dégueulasse, mais très intéressant parce qu'il est symptomatique de cette France de 1848 où il a été écrit. Et finalement, toutes ces quintes de tout de Marguerite, c'est aussi les espèces de spasmes révolutionnaires de cette France de 48. En 48, la France est allée de révolution en révolution, ou de tentative révolutionnaire en tentative révolutionnaire. Donc il y a cette espèce de corps social français qui essaye de faire advenir de la liberté et de l'égalité et de la fraternité et qui n'y arrive jamais. Et c'est quelque part aussi ça, Marguerite Gauthier.
Voilà, elle y va pas de main morte, Jeanne Balibar, avec ce texte. Et avec Dumas, même s'il se rachète un peu dans la fin de son explication. Vous
non,
êtes d'accord,
je suis tout à fait d'accord avec Jeanne. Ouais, absolument. Et c'est pour ça qu'on peut travailler à nœud d'adaptation. Mmh. Après, il y a une différence à faire entre le roman et la pièce. La pièce est politiquement dégueulasse. D'ailleurs, on a enlevé des choses. Ou par exemple, une scène que je trouvais vraiment pas possible, qui était la scène du petit couple qui rêve d'une petite vie de classe moyenne, etc. On l'a détournée en la faisant jouer par deux garçons pour la remettre dans une autre perspective. Mais il y a quelque chose dans la pièce, oui, qui est vraiment embarrassant. En revanche, le roman est pas cet endroit parce que le roman est vraiment dans ce spasme révolutionnaire dont elle parle. Et puis par ailleurs, le roman est dans un endroit plus onirique, plus fantasmatique entre rêve et réalité. Donc il y a des échappées qui font que quelque chose. Mais et c'est aussi pour ça qu'on a fait une adaptation, c'est-à-dire qu'on a gardé, parce que ce que Jeanne dit est juste. Il y a des moments de langue plus ou moins forts. On a essayé de garder ceux qui sont plus intéressants. Puis il y a des fulgurances aussi. Donc quand même, quand on se met à l'écoute de ce texte, je crois qu'on entend des choses. Et en l'occurrence, le rapport à l'argent, le rapport à la marchandisation, le rapport à l'amour s'énonce de manière assez belle dans le livre. Voilà. Après, ce qui est intéressant, vous parliez tout à l'heure d'Isabelle Huppert ou de Jeanne ou de Judith Chemla ou de Marie-Sophie. Et on s'aperçoit que ces dames aux Camélias ou ces Marguerite Gauthier qui ont marqué sont des filles pas dupes, sont des filles intelligentes. Pourquoi des metteurs en scène vont chercher des filles aussi intelligentes au-delà du talent pour travailler Marguerite Gauthier? Parce que justement, je pense qu'on veut y mettre un champ, on veut y mettre une densité, une perspective qu'un endroit de l'actrice permet, qu'un endroit aussi de la révolte ou de cet endroit contre qui fait qu'on n'est pas dans le victimaire. Donc il y a une façon de contourner aussi ça, qui est de confier ce rôle à des actrices qui sont pas juste des chialeuses.
Des pleureuses. On se tourne naturellement vers vous, Marie-Sophie Ferdan. Hein voilà. Mais c'est intéressant parce que Jeanne Balibar disait aussi à propos de ce rôle de Marguerite dans La Dame aux Camélias, elle racontait son plaisir à travailler sur cette figure iconique, sur cette icône, dans le sens de cliché. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est presque un lieu commun, ce personnage. Elle est tellement connue, elle a été tellement interprétée et par aussi des grandes actrices qu'elle laisse en même temps énormément de place ou d'espace à l'interprétation, à l'investissement subjectif de cette figure.
Mais en plus, ce qui est drôle, c'est qu'elle est tellement connue que moi, la première fois que j'ai entendu parler de Marguerite Gauthier, c'était dans les bandes dessinées de Gottlieb, où on voyait une dame qui crachait très fort
dans une potiche
au visage de tous les hommes qui venaient, et puis ensuite qui allait s'écraser la tête contre un coussin pour essayer de pas... C'est qu'elle peut être même presque drôle dans cet excès de maladie. J'ai beaucoup de plaisir à écouter Jeanne Balibar, je trouve qu'elle est... elle est une intelligence, enfin, c'est foudroyant, je réponds pas à votre question, mais voilà, ça me fait plaisir d'entendre ce qu'elle a pu dire sur que les spasmes, quand on tousse, c'est comme les spasmes de la Révolution. C'est beau cette idée, j'y avais pas pensé. J'y penserai ce soir, tiens.
Voilà. Marie-Sophie.
C'est vrai qu'il y a une dimension politique quand même dans le livre. Faut pas le minimiser non plus. On est dans un endroit particulier d'une deuxième révolution, de la chute de l'Empire, à nouveau des manifestations. Il y a quelque chose il y a une peur que le monde change et elle est le symptôme de quelque chose en réalité. Et il y a eu un endroit avant que Dumas fils devienne très conservateur. Il y a eu une volonté de s'engager quelque part à travers ce personnage.
Le metteur en scène Arthur Noziciel et la comédienne Marie-Sophie Ferdan sont nos invités jusqu'à 12h30. La Dame aux Camélias est actuellement sur la scène du Théâtre des Gémeaux à Sceaux.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
Du théâtre à l'opéra, La Dame aux Camélias, l'air de Violetta avec l'orchestre de Lisbonne, c'est Maria Callas. Musiciel. Vous vous retrouvez aujourd'hui avec Marie-Sophie Ferdan ensemble sur la scène des Gémeaux après La Mouette de Tchekhov en 2012, jouée dans la cour d'honneur du Palais des Papes, où vous étiez Nina, Marie-Sophie Ferdan. Vous pouvez tout projeter en elle, puisqu'on parlait des grandes comédiennes.
C'est ma Barbie.
Il fallait qu'il le dise.
J'avais trop envie, pardon. J'ai jamais joué à la poupée, mais je peux, là, ça y est. Et j'ai trouvé ma Barbie, et voilà. Non, mais il y a une continuité aussi des rôles, il y a une histoire du théâtre. Ce que j'aime dans La Dame aux Camélias, c'est que c'est aussi un théâtre de fantômes. Hein. Il y a quelque chose où la pièce commence par un déterrement, il va la déterrer. Et je trouve qu'au théâtre, moi j'ai un rapport assez fort à ça, à cette façon que peut avoir le théâtre de convoquer les absents. On partage ça avec Marie. Et puis La Mouette avait ça aussi. Et puis La Mouette commençait par Dominique Raymond, qui jouait Arcadina, mais réévoquait la Nina qu'elle avait jouée 30 ans auparavant. Et je pense qu'il y a une mémoire des rôles qui se construit. Quand on travaillait sur La Mouette, quand je voyais La Mouette, je commençais déjà à penser à Marie pour... pour la dame au camélia en lui disant « elle peut amener la dimension tragique à ce drame qui ne serait que sentimental ». Et puis quand on a fait les premières lectures, on s'est aperçu qu'il y avait quasiment des répliques de la mouette dans la dame au camélia. Et voilà. Et puis il y a quelque chose qui, il y a des rencontres avec des interprètes. Il y a eu mes frères d'armes, hein, comme Laurent Poitronneau, Xavier Gallet. Il y a mes sœurs d'armes comme Marie, Adèle et Nel. Et on sent que c'est des gens avec qui on va construire un théâtre qu'on a envie de faire avec des gens qui sont voilà l'extension de quelque chose sur le plateau. Mais bon là j'ai un scoop. On va jouer Marie. On va plus se quitter avec Marie parce qu'on va être mari et femme en fait dans la prochaine création de Pascal Rambert qui s'appelle Architecture. Et puis après, on a un autre projet ensemble. Donc voilà, on va passer beaucoup de temps ensemble.
Voilà, Pascal Rambert, après l'art du théâtre, nouvelle collaboration donc annoncée. Barbie, bon, moi j'étais plutôt dans Pygmalion et Galatée. On va tenter avec vous, Marie-Sophie Ferdan. Vous avez quitté la Comédie Française en 2013 après 6 ans et des débuts dans l'habit de Célimène dans Le Misanthrope de Molière. Alors est-ce qu'Arthur Nosiciel, il en passe de devenir votre Pygmalion? Est-ce qu'il vous a plus sérieusement ouvert quand même des mondes sur scène, au théâtre, auxquels vous n'aviez peut-être pas accès avant, qui vous conviennent mieux?
Oui, vous avez vu que je suis blonde, hein. C'est quand même Barbie, il a réussi à me teindre, moi qui suis brune en blonde platine et à changer quand même un peu cet aspect. Oui, plus sérieusement, voilà, c'est un peu curieux de le dire parce qu'Arthur est là, mais Arthur a touché un endroit qui est important, que je ne savais même pas que j'y croyais à ce point, c'est la foi dans le théâtre, la foi dans l'art. Et puis, de croire que le théâtre peut être un tout, peut être une façon de se relier, oui, aux morts, aux vivants, à une spiritualité et à un moment de vie qui est tellement important que... c'est idiot parce que j'arriverais pas à le dire parce que c'est une chose importante pour moi, mais oui, la rencontre avec Arthur est très importante.
Point, Arthur. Le mot de la fin, vous avez donc repris le TNB, le Théâtre National de Bretagne, à Rennes, avec cette nouvelle école aussi, enfin, ou l'école repensée avec Laurent Poitronneau que vous évoquiez. On voit cet effet groupe, cet effet troupe qui est en train de se reconstituer là-bas à Rennes. Si Marguerite rayonne sur scène et capte toute la lumière, elle aime, elle meurt aussi groupée. Vous avez ramené tous vos comédiens, desquels vous vous entourez aussi en Bretagne aujourd'hui.
Oui, je suis content que vous disiez ça parce que c'est même si c'est la dame au camélia, on a fait un travail très très choral et Marie a aussi cette élégance là et vous parliez de Pygmalion, tout ça, je me reconnais pas du tout là-dedans, c'est impossible pour moi parce que justement, je trouve que le théâtre a à voir avec le collectif, c'est à la fois sa beauté et sa tannée des fois, hein, parce que c'est compliqué de travailler avec du monde, mais c'est ça et c'est un travail très choral, très collectif, qu'il y avait la volonté à la fois de réunir des acteurs et puis là d'inviter des très jeunes acteurs qui nous rejoignent avec l'école et on va, j'espère, favoriser cette rencontre puisque ces acteurs vont travailler à l'école avec ces jeunes acteurs et que on espère, je dirais pas créer un mouvement, mais enfin créer une communauté qu'on a envie d'être élargie le plus possible. La communauté, pour moi, elle doit être hétérogène, c'est-à-dire les individus doivent être le plus différents possible parce que c'est ça qui fait communauté.
Voilà, on a commencé à bout de souffle avec la dame au camélia et on termine avec ce nouveau souffle que vous souhaitez insuffler au TNB à Rennes. Merci beaucoup à vous Arthur Nosiciel et un grand merci à vous Marie-Sophie Ferdan d'avoir été avec nous autour de cette grande table.